Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une hécatombe à l'échelle de la planète, un décès toutes les 40 secondes dans le monde, un toutes les heures en France, 800 000 morts selon l'OMS. C'est un sujet complexe que nous abordons aujourd'hui dans Priorité Santé, le suicide. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à sa prévention, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Détresse, antécédents psychiatriques, solitude, surendettement, violences intimes, discrimination, consommation de substances psychoactives. Le suicide reste encore souvent un sujet tabou, condamné moralement, proscrit par de nombreuses religions, sous-estimé en dépit de son caractère universel. Pourtant, le suicide concerne chacun d'entre nous en regardant autour de soi, un voisin, un ami, quelqu'un dans sa famille, un ancien camarade de classe, un collègue ou même un artiste que l'on admirait. Le recensement des passages à l'acte, la transparence sur le phénomène sont loin d'être systématiques. Les moyens dédiés à la prise en charge des personnes en souffrance restent souvent insuffisants, alors qu'ils ne sont pas dans certaines régions du monde inexistants. Rares sont les États, ils sont moins d'une trentaine dans le monde, à avoir engagé des politiques à l'échelle nationale. Et tout aussi minoritaires sont les pays qui aujourd'hui considèrent la prévention du suicide comme un enjeu de santé publique. Aucune région de la planète, aucune tranche d'âge n'est épargnée par le suicide. C'est ce que l'on va voir au cours de cette émission en votre compagnie. Professeur Frédéric Rouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes, ancien chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Prévention du suicide qui passe donc par ce corps médical, également par le réseau associatif. Avec nous également en studio, Alain Mathiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de SOS Amitié France. Et tout à l'heure, on va rejoindre au Sénégal le professeur Aïda Sylla, professeur de psychiatrie au CHU de Fan à Dakar, chef de la division santé mentale au ministère sénégalais de la Santé. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et pour poser vos questions, pour témoigner bien sûr, on attend vos appels. Notre numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Je viens de le citer à l'instant, ce chiffre de 800 000 décès chaque année dans le monde que donne l'OMS, 15e cause de mortalité d'après l'Observatoire national du suicide. Est-ce qu'il y a malgré tout, professeur Frédéric Rouillon, aujourd'hui moins de suicides qu'hier dans le monde ?
Eh bien écoutez, ça dépend des régions. Il y a des régions qui voient le suicide qui progresse et d'autres qui se stabilisent, d'autres qui diminuent sensiblement, notamment à la faveur de politiques de prévention. Et pour compléter ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est un phénomène qui est universel dans le monde. Il y a des pays beaucoup plus touchés que d'autres par le suicide, avec des pays à fort taux de suicide et des pays à faible taux de suicide.
Et il y a une carte, une géographie justement. Est-ce que c'est caractéristique de certaines régions du monde plus que d'autres ?
Absolument. Alors, on ne comprend pas très bien la nature, effectivement, de ce phénomène. Mais, par exemple, en France, on a un taux moyen, voire supérieur de suicide à d'autres pays européens qui ont, eux, un taux inférieur. Par exemple, l'Italie.
Est-ce que ça veut dire que dans certains cas, professeur Rouillon, il y a plus de suicides, les gens vont mal parce que ce pays va mal? Est-ce qu'il y a un lien entre la situation économique et sociale et, on va dire, le moral des gens, le mauvais moral des gens?
Alors, bien sûr, il y a un lien entre des phénomènes sociaux majeurs comme le chômage de masse et l'émergence de phénomènes de suicide, mais c'est pas nécessairement les pays socio-économiquement en difficulté qui ont les plus hauts de suicide. Par exemple, si on prend l'exemple du Bhoutan, qui a promu le bonheur universel, le taux de suicide est relativement faible. Or, c'est un pays qui est quand même modeste sur le plan de son développement économique par rapport, en tout cas, aux pays européens.
On reviendra sur cette dimension régionale, culturelle. On va parler maintenant du volet médical. On va en parler à plusieurs reprises au cours de cette émission, bien sûr, dans Priorité Santé, sur la prise en charge. Comment ça commence, professeur Frédéric Rouillon ? Est-ce que c'est le plus souvent lors d'une hospitalisation en urgence pédiatrique ou plutôt après un dépistage en consultation ?
Alors, l'élément clé de la prévention du suicide, c'est le repérage des sujets à risque de suicide, puisque dès lors qu'on identifie quelqu'un qui est à risque, on a des stratégies de prévention de son passage à l'acte.
Alors, le lien est souvent établi, hein. Vous êtes psychiatre entre santé mentale et conduite suicidaire, professeur Rouillon. Est-ce qu'il y a des maladies, des pathologies qui sont particulièrement à risque ?
Alors, il y a des pathologies très à risque, notamment comme la dépression, hein, puisqu'on estime que à peu près la moitié des morts par suicide sont imputables à la dépression. Mais il y a aussi des pathologies qui, moins fréquentes, induisent le suicide, comme par exemple l'anorexie mentale. Hein, je crois qu'il faut rappeler que l'anorexie mentale est la maladie la plus mortelle, la maladie mentale la plus mortelle, puisqu'elle a un taux de suicide très élevé. Comme, heureusement, l'anorexie mentale est une pathologie assez rare, ça n'a pas d'impact majeur sur les taux de suicide.
Et d'autres pathologies comme la schizophrénie, la bipolarité.
Schizophrénie, absolument. On estime qu'à peu près 10% des schizophrènes finissent par un jour mourir de suicide. Et pour ce qui est des bipolaires, à peu près 15-20%.
Alors, lorsqu'on emploie justement ce terme de prévention, c'est notre sujet du jour, on s'intéresse aux signes observés avant le passage à l'acte. Professeur Rouillon, est-ce qu'on peut parler de signes avant-coureurs ?
Alors, les signes avant-coureurs, en général, c'est la famille, les proches qui les repèrent, lorsqu'évidemment le sujet a un entourage familial, ou des systèmes d'écoute téléphonique, comme ce dont il sera question tout à l'heure, ou d'autres professionnels ou membres du corps social. Hein, ça peut être un homme du clergé, ça peut être un professeur à l'école, ça peut être...
Une oreille,
voilà, qui va entendre le message de détresse et essayer de mettre en place une assistante à la fois psychologique et éventuellement médico-psychologique.
Alors, on vient de citer justement ces maladies, ces antécédents psychiatriques, peut avoir aussi des antécédents en termes d'addiction, mais il y a des personnes qui ne souffrent d'aucun de ces deux maux et qui pourtant ont des pensées, voire passent à l'acte en termes de suicide. Justement, ça veut dire que, on parlait tout à l'heure de cette universalité du suicide, ça peut effectivement un jour arriver à tout le monde, professeur Rouillon ?
Alors, à tout le monde, non, puisque fort heureusement, il y a quand même une minorité de gens qui se suicident, heureusement pour la démographie de la planète, mais il y a des signes, avant même qu'il y ait une expression du suicide, des facteurs de risque que l'on peut repérer. On sait qu'effectivement, les gens très impulsifs, par exemple, sont plus à risque de suicide que les gens qui ne le sont pas. Comme vous l'avez souligné, les gens qui consomment de la drogue ou de l'alcool sont plus à risque, à la fois parce que l'alcool déprime et dépressogène, et à la fois parce que ça favorise le passage à l'acte. L'état d'ivresse lève les inhibitions et favorise le passage à l'acte suicidaire.
Alain Mathieu, SOS Amitié, une fédération d'associations pour aider les personnes en situation de détresse psychologique, permanence téléphonique. On ne lève pas, bien sûr, cette indication très importante, c'est l'anonymat dans votre association. C'est un petit peu ce qui fait le cœur de votre activité. Mais au niveau national, quand même, vous avez rassemblé toute une série de données sur ces personnes en souffrance qui vous appellent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs portraits, justement, de ces personnes en détresse ?
Oui, alors depuis 7 ou 8 ans maintenant, nous avons pris l'habitude de traiter des statistiques concernant nos appels qui sont enregistrés par nos écoutants en tout anonymat, bien sûr, au cours des appels. Et en fin d'année, on essaye de faire des corrélations entre les différents paramètres des appelants. Il faut savoir que nous traitons en moyenne chaque année de l'ordre de 700 000 appels, c'est-à-dire quand même plus d'un toutes les minutes, et que parmi ces appels, il y en a actuellement environ 3% qui font allusion au suicide, et nettement moins, heureusement, qui sont tout proches du passage à l'acte. Hein,
puisque... Alors, qui vous appelle ? Ce sont les sujets eux-mêmes qui sont en souffrance, ou c'est plutôt l'entourage ?
Ce sont toujours les personnes elles-mêmes qui ont besoin d'exprimer leur mal-être. Et à cet égard, j'aurais voulu faire une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. La prévention du suicide, effectivement, passe par le corps médical, mais elle commence bien avant. Et dès qu'une personne est dans le mal-être, on pense qu'il peut y avoir une évolution qui pourra l'amener un jour à des pulsions suicidaires. Donc je pense que notre action est très complémentaire de celle des acteurs de la santé puisqu'elle se situe bien en amont.
Alain Mathieu, le suicide, deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Est-ce que beaucoup de jeunes gens appellent SOS Amitié ?
Alors, de plus en plus, depuis que nous avons mis en place depuis quelques années un système d'écoute par Internet et notamment par chat, et on a effectivement constaté que l'allusion au suicide chez les jeunes est beaucoup plus importante que chez les personnes, disons, d'âge mûr ou les anciens. Pour citer un exemple, donc je vous ai parlé de 3% en moyenne des appels sur tout média confondu, mais sur le chat, c'est plutôt 20%.
Ça veut dire cette verbalisation, on va dire qu'il y a moins de tabous sur l'emploi du terme suicide, c'est ça ?
Peut-être, et peut-être aussi le fait que les jeunes, quand ils sont pas bien dans leur peau, appellent plus facilement à l'aide, et donc c'est une sorte d'appel à l'aide, hein, parce que toutes ces évocations de suicide n'aboutissent pas forcément à des passages à l'acte, heureusement.
Alors, à l'autre bout du fil, Alain Mathieu, qui sont justement les bénévoles de SOS Amitié qui offrent ces services, quelle tranche d'âge, plutôt des hommes, des femmes, et puis des actifs ou des gens qui, quand ils ont terminé de travailler, justement, se mettent au service des autres?
Alors, c'est vrai que donc SOS Amitié, lors de sa création et pendant les 40 premières années, donc l'association a été créée en 1960, c'était principalement des personnes assez âgées, des jeunes retraités, disons. Aujourd'hui et depuis quelques années, il y a une nette augmentation des bénévoles qui sont des jeunes actifs, voire des étudiants. Donc aujourd'hui, c'est quand même plutôt autour de 60 ans la moyenne d'âge, mais elle est en train de diminuer très nettement.
Alors sur cette capacité d'écoute et surtout de réponse, Alain Mathieu, est-ce qu'il y a justement une interaction où c'est vraiment la parole de l'autre qui est d'abord privilégiée? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous disiez très peu de ces appelants utilisent le terme de suicide. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un justement dit, je vais tellement mal que j'y pense peut-être là tout de suite?
Alors, notre première exigence, c'est simplement l'écoute. Parce que les personnes qui nous appellent, le plus souvent, ne sont pas en attente d'un conseil. Elles ont en général, malheureusement, essayé déjà beaucoup de solutions pour se sortir de leurs problèmes. Elles ont surtout besoin de parler. Et donc, c'est la première chose qu'on fait, nous, c'est l'écoute centrée sur la personne, c'est-à-dire bienveillante, sans jugement, sans conseil, mais pour aider la personne qui nous appelle à essayer de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, qu'elle a souvent perdue parce qu'elle est dans un état d'angoisse extrême en général.
Alors, des facteurs personnels, des facteurs sociaux, parcours douloureux derrière un passage à l'acte ou une histoire d'amour qui va mal. Écoutez tout de suite ce témoignage, hein, celui d'une jeune femme, elle a 31 ans. Aujourd'hui, elle est maman. En 2015, elle avait tenté de se suicider sans antécédent. Elle a surpris tout son entourage. Elle venait de se disputer avec son petit ami qu'elle fréquentait alors depuis 2 ans et elle a accepté de se confier anonymement au micro de Charlie Dupiau.
C'était il y a 3 ans, du coup j'avais 28 ans, j'étais un peu dans une phase perdue et un peu aussi de beaucoup de fêtes, sortir beaucoup, voilà, dans le milieu de la nuit, et ça allait pas spécialement bien, et sentimentalement avec donc mon compagnon, on était un peu sur une pause, on n'était pas très bien ensemble. Puis c'est très passionnel, parce que du coup, je suis toujours avec cette personne. On a vécu ensemble très rapidement. Là, c'était la première fois, donc du coup, qu'il venait pas. Donc c'était aussi, je pense, la peur de qu'il revienne pas du tout, quoi, jamais, et qu'on se quitte. J'étais toute seule chez moi, il m'a dit qu'il allait aller à l'hôtel, et c'est là qu'en fait, j'ai craqué. Voilà. C'était le milieu de la nuit quand il m'a dit ça. Et du coup, j'ai commencé à prendre des médocs. Mais c'est comme si, en fait, j'avais envie de... Je sais pas, dans ma tête, il se passait que j'avais envie de dormir, en fait. J'avais envie de me reposer. J'avais plus envie de réfléchir et de souffrir et tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais dormir en faisant ça. Et du coup, j'ai pris des médocs, et j'en ai pris beaucoup, beaucoup.
Vous vous souvenez de ce que c'était et de combien vous en avez pris?
C'était des tramadol, c'était ce qu'on m'avait donné pour une douleur au poignet. J'en ai pris énormément. J'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Je me disais comme ça, je vais dormir, comme ça, je vais dormir, et que voilà, et que comme ça, ma peine allait, enfin, ça allait pas partir, mais du coup, j'allais être soulagée, quoi. Enfin, j'ai pas eu la sensation d'avoir envie de mourir, en fait. Je voulais pas aller aussi loin, mais tout en faisant ça, donc je sais que c'est un peu incohérent, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme s'il y avait un moment de vide, et il y a un moment où on réagit, quoi. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des parents formidables, et là, j'ai appelé mes parents, en fait. Et puis, je le sais que c'est de la, enfin, que j'ai fait une connerie, puisque c'est le premier truc que je dis à ma mère en l'ayant au téléphone. Je crois que j'ai fait une connerie. Après, faut quand même dire que comme j'avais pris énormément de comprimés, j'ai quand même un bon moment où je suis un peu défoncée, quand même, voilà. Où je m'allonge. Et puis, je commence à comprendre un peu que les pompiers vont arriver parce que mon père avait appelé. Et puis là, donc, il y a des pompiers qui débarquent à la maison. Tout est allé hyper vite. Et en même temps, je me souviens quand même de pas mal de choses. Donc, ils me regardent, ils me demandent ce que j'ai pris, ils me demandent si je suis consciente. Alors moi, en plus, je leur explique, non, mais je voulais juste dormir. Alors, elle me dit, ah non, mademoiselle, là, c'est, vous vouliez pas dormir, là. Et là, je m'en souviens très bien. C'est terrible. C'est que mes parents arrivent aussi à ce moment-là. Et que, du coup, ils croisent les pompiers en train de me porter complètement. Et là, je vois ma mère s'écrouler en pleurs. Rien de le dire, ça me remet. Bon bref, c'est pas la meilleure fierté de... Enfin voilà. Puis après, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a donné un antidote pour me faire vomir. Tout ce que j'avais ingurgité. Donc là, ça a été une souffrance. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais fait mal. Parce que c'était vraiment, mais horrible. Donc quand on fait une tentative de suicide, on assume. Il faut un peu un moment où on assume. Donc du coup, je devais rester toute la journée et une nuit, je crois, toute seule. Et avoir des contacts avec personne, vraiment pour moi réfléchir sur ce que j'avais fait comme connerie. Parce qu'à chaque fois, ils disaient tentative de suicide, alors ça me déplaisait d'entendre ça. Enfin, ils disaient TS, et du coup, je disais non, j'ai pas fait ça.
Ah, vous rejetiez cette idée.
Je rejetais complètement, et puis ça fait peur, suicide. De toute façon, le mot, il fait peur. Pour moi, encore actuellement, encore, je me dis que c'est un moment de faiblesse, quoi. J'ai du mal à dire, par contre, vraiment que c'était une tentative de suicide. Même si bah ça l'est puisque j'ai fait une connerie hein. Et du coup j'avais jamais eu ces idées là. En plus je suis quelqu'un de plutôt joyeuse comme personne, hyper positive, hyper solaire, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé.
Et alors ensuite vous avez suivi une thérapie?
Oui, donc c'était un suivi psychiatrique. Et je devais la voir une fois par semaine cette psy. Après j'ai mis du temps à en parler hein. On n'en parle pas comme ça. Ceux qui le savaient, mes proches, ma famille, voilà, les plus importants le savaient. Puis après, je l'ai annoncé à mes meilleurs amis qui ont pleuré quand ils l'ont su. Mais j'ai mis un peu de temps avant d'en parler, ouais. Ce que je me disais, vraiment, c'est que j'allais jamais pouvoir effacer ça. Voilà, de le dire, ça m'émeut un peu. Parce qu'en fait, je savais que j'allais devoir vivre avec ça, d'être la fille qui a fait une tentative de suicide. Ça a quand même eu des côtés positifs sur moi. J'ai pris des distances quand même avec certaines personnes, avec on a beaucoup discuté avec mon compagnon et puis on s'est remis ensemble. Et puis depuis j'ai eu un enfant, il a 9 mois, donc il y a eu un grand changement de vie quoi. Parce que ma famille elle a pu aussi découvrir qu'en fait malgré tous les sourires, peut-être qu'en fait il y avait pas, ça allait peut-être pas tant que ça. Enfin en tout cas la tentative c'est pour qu'on nous regarde quoi à un moment je pense. Puis comme je vous dis, j'ai aussi compris que le bien-être, c'est aussi quelque chose peut-être qui se travaille pour les gens qui sont un peu plus faibles que d'autres, sans doute, je sais pas. Je sais que si je vais pas bien, y a des solutions, notamment de réparer mes petits démons avec un monsieur qui m'écoute toutes les semaines, voilà.
Témoignage recueilli par Charlie Dupiot. Professeur Rouillon, est-ce que quand cette jeune femme s'exprime, elle le dit au début, elle n'arrivait pas à utiliser le mot de suicide, mais quand elle parle aussi... clairement de ce qui s'est passé, quand elle décrit aussi précisément son passage à l'acte, est-ce que ça veut dire que déjà, elle va mieux ?
Le fait, effectivement, de pouvoir verbaliser comme elle le fait est un signe, effectivement, déjà de prise de conscience d'une difficulté, donc c'est le prélude à une demande de soins, effectivement.
Alors, elle parle de son hospitalisation, hein, professeur Frédéric Rouillon, une forme d'isolement pendant au moins 24 heures, après le passage à l'acte, et puis une forme de désintoxication. Est-ce qu'il y a justement une prise en charge qui est un petit peu formelle, un protocole établi, où ça se passe en fonction des cas, et éventuellement même en fonction du passage à l'acte, du mode opératoire?
Non, la prise en charge, elle est assez standardisée, elle dépend pas nécessairement de la nature du passage à l'acte. En revanche, ce qui est le prélude à toute prise en charge, c'est d'évaluer le risque, puis d'en identifier les causes, et ensuite de programmer une prise en charge thérapeutique avec une séquence très courte en général d'hospitalisation pour éviter le passage à l'acte. Je crois que l'hospitalisation, elle n'a comme seul but que d'empêcher le sujet d'attenter à sa vie et de l'aider très transitoirement pour évaluer et l'orienter.
Alors il y a quelque chose qui est frappant quand on parle du suicide, professeur Rouillon, Alain Mathieu, je vais vous faire aussi réagir sur cette question, c'est à quel point on pèse ces mots. Même dans les mots, on dit échec d'une tentative de suicide, on va dire, est-ce qu'on va dire réussite? Non, on ne peut pas dire réussite d'un suicide, ça ne se dit pas. On a vraiment beaucoup de prudence parce que on peut aller très vite dans le scabreux, dans le mauvais goût. Est-ce que c'est lié vraiment à un tabou ou est-ce que... Enfin, moi, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, quand on parle du suicide, on est si prudent.
Je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, le suicide, ça a toujours été un tabou dans toutes les sociétés, et notamment un tabou religieux. Je vous rappelle que saint Augustin considérait que c'était un triple crime contre soi, contre Dieu et contre contre l'Église et la société. Donc, et il a fallu attendre le XXe siècle pour que les suicidés aient droit à une sépulture chrétienne. Jusqu'au XIXe siècle, les suicidés ne pouvaient pas être enterrés religieusement. Donc je crois que ce tabou imprègne un petit peu notre société, quelle qu'elle soit, pas simplement les sociétés d'organisation judéo-chrétienne, mais toutes les sociétés. Et puis c'est aussi, pour la famille et l'entourage, l'échec de la solidarité et de l'amour qu'on a pu porter à la personne qui s'est suicidée. Donc il y a, je crois, à la fois au niveau de l'organisation sociale un tabou, et à la fois au niveau de la remise en cause personnelle de la relation qu'on a avec la personne qui se suicide, une difficulté à l'assumer.
Et Alain Mathieu, est-ce que c'est justement quelque chose sur lequel vous travaillez lorsque vous formez les écoutants sur ce vocabulaire du suicide et de la prévention, bien sûr?
Tout à fait. On a, je dirais, vu que la prévention du suicide était le premier objectif lors de la création de SOS Amitié, même si aujourd'hui le nombre d'appels qui évoquent le suicide a pas mal diminué, c'est quand même notre préoccupation principale. Et donc l'idée, c'est d'abord, quand on est face à une personne qui est dans une telle situation, c'est de la faire parler, éventuellement de lui... Surtout, évidemment, de pas la prendre à la légère, comme ce qui a été dit tout à l'heure, et de lui faire parler de son projet, et éventuellement, de voir si elle a examiné les conséquences que pourrait avoir son geste. L'idée étant, quand même, avant tout, de pouvoir l'aider à desserrer un petit peu l'angoisse dans laquelle elle est au moment où elle nous appelle.
Alors justement, c'est une question qui se pose à l'entourage d'une personne en détresse, professeur Rouillon, à qui s'adresser lorsque l'on a autour de soi, pas forcément dans sa famille, d'ailleurs peut-être que c'est encore plus compliqué, imaginons au travail, un collègue, on le sent au bord du précipice, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider?
Je pense que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui est suicidaire, la première chose c'est de ne pas le laisser seul, parce que je crois que c'est quand on est confronté à l'isolement et à la solitude qu'on finit par passer à l'acte. Donc je crois qu'il y a nécessité d'abord d'un accompagnement, et puis, dans un deuxième temps, d'une orientation vers une structure de soins, car je crois que quelqu'un qui n'est pas formé à la prise en charge des troubles mentaux ne peut pas aider un suicidaire de manière efficace. Donc, je crois que c'est l'écoute, l'attention, ne rompre l'isolement, et ensuite orienter vers une structure de soins.
Tout à l'heure, on employait le terme de tabou dans le vocabulaire. Ces tabous, ils se traduisent également d'un point de vue très concret au niveau des chiffres, avec notamment le phénomène de la sous-déclaration des suicides, qui peut se faire d'ailleurs dans les familles, pour éviter par exemple une autopsie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une réalité? Et j'aimerais que vous nous expliquiez, professeur Rouillon, pourquoi c'est si important d'avoir de bons chiffres du suicide.
Je pense que c'est moins un tabou que ce ne fut, puisque pendant très longtemps, les maires, par exemple, quand ils signaient les arrêts de décès, étaient invités à ne pas mentionner le suicide pour ne pas porter préjudice à l'identité morale un petit peu de la famille où était...
Mais peut-être aussi par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure, pour qu'il soit enterré tout simplement
absolument,
au milieu des autres.
Voilà. Mais bon, maintenant les choses ont quand même fort heureusement évolué, tout au moins en Europe, et c'est moins un tabou. Mais ça reste quand même quelque chose qui heurte, qui choque et qui blesse un petit peu l'entourage et la société.
Alors tout à l'heure on disait que le suicide peut malheureusement concerner toutes les catégories de la société malgré tout. Est-ce que vous avez repéré justement dans votre écoute, Alain Mathiot, des groupes vulnérables, en particulier les personnes qui sont confrontées à la discrimination ?
Oui, en partie, mais je dois dire que la plupart de nos appelants parlent au départ de leur solitude ou de leur souffrance psychique. Et c'est pas forcément lié à la discrimination. Néanmoins, la discrimination, tant sexuelle que raciale, est souvent évoquée également.
Alors, il y a une question qui est importante sur ces données, sur ces chiffres. Et puis, une question qui est délicate, c'est sur les méthodes de suicide les plus répandues. C'est important d'en parler. Mais en même temps, moi, en tout cas, ce que j'ai lu en préparant cette émission, c'est plus on parle des méthodes, plus il peut y avoir un caractère d'imitation, de réplication. Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez réel, professeur Rouillon? J'ai entendu ce syndrome Werther de répétition d'un acte commis, ou est-ce que les médias, est-ce que les sources d'information doivent justement être explicites sur les façons dont ça se passe, éventuellement pour mettre des personnes à l'abri dans le cadre de cette prévention?
Non, je crois qu'il y a une relative stabilité dans les méthodes auxquelles on a recours pour mourir. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une variation des taux d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre pour ce qui est du suicide. Il y a aussi une variation dans les méthodes. Hein. Même en Europe, deux pays très comparables, la France, la première méthode, c'est la pendaison. Alors que au Royaume-Uni, c'est la dernière des méthodes. Alors certains sociologues ont d'ailleurs dit que on ne se tuait pas avec le moyen de la peine de mort du pays dans lequel on vit. Et comme la peine de mort au Royaume-Uni chez les Anglais, c'est la pendaison, les gens ne mouraient pas par la pendaison. Pour la guillotine en France, c'était plus difficile, donc...
Et en même temps, j'ai vu sur les statistiques de l'OMS une donnée dont je n'avais absolument pas idée, professeur Rouillon, c'est que la première méthode pour mettre fin à ces jours, ce sont les pesticides, notamment dans les sociétés agricoles et les sociétés les plus défavorisées. Donc un empoisonnement par des moyens qui ne sont pas médicamenteux.
Alors, c'est vrai que le moyen de se suicider, c'est le moyen le plus immédiat, le plus facile d'accès. Hein, c'est pour ça, par exemple, qu'on avait beaucoup parlé dans les médias il y a quelques années du suicide des policiers ou des militaires. Ben, le suicide des policiers et des militaires, il est surtout le fait qu'ils ont une arme de service et qu'ils peuvent s'en servir. Hein. Dans une maison, dans un lieu où il n'y a pas d'armes, ben, évidemment, on ne se suicidera pas par arme à feu.
Professeur Rouillon, Alain Mathiot, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole à un auditeur de Priorité Santé.
RFI.
Et cet auditeur, c'est Hubert. Il nous appelle du Cameroun, juste à côté de Yaoundé. Bonjour Hubert.
Bon, bonjour Madame Caroline.
On vous écoute Hubert.
Oui, s'il vous plaît, j'ai quelques questions à vous poser là.
Oui, allez-y.
Oui. Chez nous, dans notre tradition, on dit généralement que la personne qui se suicide, c'est celle-là qui est dotée, qui est possédée.
Mm-hmm.
Oui. J'aimerais donc savoir si une personne normale, avec tous ses sens, se suicider, peut passer à l'acte.
Est-ce que vous avez, Hubert, dans votre entourage, perdu quelqu'un, justement, qui a mis fin à ses jours?
Oui, j'ai perdu mon oncle en 2015. Qui s'est pendu.
Est-ce que cette personne, justement, avant de passer à l'acte, avait parlé à sa famille, avait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie?
Non, rien du tout. Raison pour laquelle j'aimerais aussi connaître les signes avant-coureurs de l'éventuel suicide. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer, nous, l'entourage, que cette personne-là peut passer à l'acte ou pas?
Est-ce que c'est personnellement, Hubert, quelque chose qui vous inquiète?
Pardon, madame.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, justement, que cette personne de votre entourage qui n'avait rien dit, vous n'aviez pas vu de oui. signes, justement, inquiétants, ait pu commettre l'irréparable?
Oui, ça nous inquiète jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne connaît ni le mobile, ni quoi que ce soit. La raison qui l'a poussé à passer à l'acte.
Professeur Frédéric Rouillon, un suicide sans explication, c'est toujours quelque chose de très compliqué à vivre pour l'entourage, un entourage qui cherche des réponses.
Alors, un suicide pour l'entourage, c'est toujours très agressif. A fortiori, lorsqu'il n'y a pas de raison apparente, ou pas une lettre, ou pas quelque chose, un témoignage qui donne quelques explications, parce qu'on reste dans l'incertitude, comme Hubert, effectivement, qui se demande ce qui s'est passé. Alors, peut-être, puisque sa question, c'est, y avait-il des moyens d'identifier? Je pense que si on est un petit peu attentif auprès des personnes de son entourage, on peut quand même repérer un infléchissement du comportement, une certaine morosité, une tristesse, une perte de l'éprouver du plaisir, une difficulté à se réjouir pour des choses heureuses. Et donc, ce sont des signes un petit peu avant-coureurs de dépression qui peuvent faire le lit d'un passage à l'acte suicidaire.
Alors, cette dimension aussi qu'évoquait Hubert à l'instant, dans certaines cultures, le suicide qui est le reflet, d'après certaines croyances, d'une possession ou d'un esprit extérieur, c'est compliqué pour un psychiatre d'avoir à s'adapter à ce genre de croyances, ou c'est finalement quelque chose qui rentre dans le cadre de la thérapie?
Non, je crois ça que c'est pas vraiment difficile. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans en Afrique noire nous avions des très bons rapports avec les guérisseurs, avec les autres formes de prise en charge. Puisque c'était au Sénégal, je me rappelle d'un guérisseur qui me disait « Non, lui, il est vraiment dof. Hein, » Dof, je traduis en Wolof, ça veut dire fou. « Il est pour toi. Lui, il est moins dof, je vais le garder. » Donc, il y avait vraiment une espèce de répartition quand même des prises en charge entre la prise en charge médicale et éventuellement la prise en charge rituelle.
Voilà pour ces explications, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Hubert, merci beaucoup pour cet appel, ce témoignage du Cameroun, juste à côté d'Yaoundé. On va prendre un autre auditeur en ligne, Igor avec nous, il est au Togo, il est à Lomé. Bonjour Igor.
Oui, bonjour.
On vous écoute Igor.
Ok, voilà. Ben, moi, mon problème, c'est juste que personnellement, je ne sais pas où est-ce que j'en suis pour la vie, quoi. Donc, je suis là, je suis sûr que je suis bien vivant et bien portant, mais ça va pas, ça va pas.
Alain Mathieu, SOS Amitié, Igor qui exprime un mal-être sans avoir d'explication, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions à lui poser?
Je pense que la première des réponses, c'est il faut en parler. Quand on se sent pas bien, il faut en parler avec quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que les services d'écoute comme les nôtres sont là pour écouter et laisser s'exprimer ce mal-être. Et souvent, quand on en parle, ça finit par aller un petit peu mieux.
Hélas, il y a certains pays du monde où il n'y a pas ces services d'écoute. Je pense que c'est le cas au Togo. Igor, autour de vous, est-ce que vous avez des amis? J'entends à votre voix que vous devez être assez jeune. Est-ce que vous avez des amis de confiance à qui parler ou quelqu'un dans votre famille?
Non, des amis, je dirais pas vraiment. Des amis de confiance.
Et dans votre famille?
Ma famille, il y a maman qui est là. Il y a mes grandes sœurs qui ont aussi leurs problèmes. Et je ne voulais pas leur ajouter.
Mais malgré tout, ces personnes, elles seraient très, très certainement contentes de savoir que si vous avez besoin d'elles, vous pouvez compter sur elles. C'est important pour elles aussi de pouvoir vous aider.
Oui, c'est clair. Mais il faut dire, déjà, ça fait 3 mois que je vis ailleurs, que je suis en apprentissage. Je pars chez elle tout le temps, histoire de la rendre visite et que je ne la retrouve pas. J'avais des messages, je ne me rappelle pas. Du coup, ça n'a pas d'importance. Donc, il faut dire que je suis le cas moi-même.
Mais Igor, il faut trouver le bon moment, prendre ce temps justement de penser à vous et d'aller vers ces personnes et de prendre le temps de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que peut-être que des fois, avec un mot assez simple, une explication ou simplement le fait d'être écouté, ça pourrait vous permettre d'avancer vers autre chose.
Oui, je comprends complètement. Mais là, je peux dire que mon problème, si je pourrais bien le comprendre, c'est un manque d'affection.
Un manque d'affection, vous le disiez, vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous. Est-ce que vous voyez justement un moyen d'élargir ce cercle, aller vers des endroits où il y a plus de jeunes, sortir un petit peu, aller au cinéma ou dans des endroits où vous pouvez boire un verre, oui, avec des amis?
C'est facile à dire, mais sauf qu'ici, il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens. Et moi, je ne peux pas dire que je suis tellement aisé que ça. Du coup, être en apprentissage ici et ne pas avoir de soutien, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est obligé de se débrouiller tout seul. C'est vraiment pénible. C'est pénible. C'est facile à dire au téléphone, mais ce que je vis physiquement, c'est vraiment ça.
Ouais, je comprends bien. Je comprends bien quand on n'a pas l'argent pour sortir, etc. Mais peut-être se tourner vers des réseaux associatifs où là, ça peut être gratuit, des groupes de jeunes, des groupes communautaires qui peuvent peut-être vous écouter.
J'ai essayé dans le passé. Une fois que j'ai fini mes études, bon, j'ai pas fini, j'ai fait le BTS en gestion. Et j'ai fait du travail, j'ai pas trouvé. Ah bon, j'ai eu qu'à faire du manœuvrage. C'est tellement pénible. Je veux dire que tu as fait des études et maintenant tu te retrouves à la base de l'équipe. C'est comme si tu n'as rien fait de ta vie. Et voilà, du coup, tu te mets à l'apprentissage et malgré ça, tu n'as pas d'aide. Et j'essaie de me comprendre, c'est facile. C'est facile.
Par contre, à Lomé au Togo, il y aurait peut-être un psychologue que vous pourriez contacter auprès d'un service hospitalier, aller vous renseigner dans un hôpital pour voir si y a un psychologue qui pourrait vous recevoir en consultation, auprès de qui vous pourriez justement mettre tout ça à plat, prendre un petit peu de temps pour lui expliquer.
D'accord. J'ai pas les filles, mais j'ai pas fait le pas.
Mmh. Bon. Bah, écoutez, Igor, on vous souhaite beaucoup de courage et puis je pense que dans ce cas-là, peut-être le conseil le plus pressant, je pense que le professeur Frédéric Rouillon me confirmera avec moi, c'est d'aller consulter un psychologue pour parler un petit peu tout ça. Si vous n'avez pas auprès de vous quelqu'un à qui vous confier, allez voir un professionnel, c'est certain qu'il pourra trouver les mots pour vous permettre d'avancer.
D'accord, c'est gentil.
Merci, très bonne journée à vous Igor, à Lomé au Togo. Justement, pour avoir une idée de savoir comment ça se passe sur ce continent africain, on va maintenant rejoindre le Sénégal. Et en ligne, on retrouve le professeur Aïda Sylla. Professeur Sylla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie au CHU de Fana Dakar, chef de la division santé mentale au ministère sénégalais de la Santé. On vient d'entendre ce témoignage d'Igor à Lomé, démuni, qui se sent seul, peu de moyens justement pour sortir, entrer en contact avec des gens. Est-ce que sa situation reflète en fait un certain manque au niveau de la prise en charge et de la prévention du suicide dans votre région?
Oui, en fait, effectivement, mais que je dirais beaucoup plus à un mode de vie aussi. Hein, nous avons des services à Lomé, nous avons des collègues, le professeur Bassa, il y a un service de psychiatrie avec toute une équipe de psychologues, mais nous constatons de plus en plus un isolement et une solitude, même si les personnes sont au sein de leur famille, ou peut-être les personnes ne font plus attention à la souffrance d'un des membres pour pouvoir le détecter, l'amener à consulter, comme cela se faisait à un certain moment. Alors, et donc, je pense que cela pose tous ces problèmes.
Des changements de société. Est-ce que vous avez des données, justement, professeur Aïda Sylla, des chiffres sur le suicide dans votre pays, le Sénégal?
Oui, assez parcellaire, parce que lorsque c'est un suicide réussi, ce sont les services de police qui mènent l'enquête. Et donc, dans les structures hospitalières, nous recevons beaucoup plus les tentatives de suicide au niveau des services de réanimation. Donc, il faut avoir les moyens d'aller regrouper toutes ces données et les remonter pour pouvoir mieux les exploiter.
Est-ce que les familles ont tendance à cacher les suicides lorsqu'ils surviennent, professeur Aïda Sylla? Est-ce qu'on peut parler d'un véritable tabou, voire d'une stigmatisation au sein de la population?
Oui, ça nous pouvons l'affirmer. Parce que déjà, lorsque nous recevons des suicidants après une tentative, la famille fait tout pour que cela ne se sache pas. Parfois aussi, nous recevons certaines familles ils viennent après qu'un des membres ait fait un suicide réussi pour comprendre. Leur consultation consiste à comprendre ce qui a pu amener ce membre de la famille à mettre fin à ses jours. Et nous en profitons parfois pour faire un peu du dépistage familial et procéder ainsi donc à une certaine forme de prévention.
Et justement, en matière de prévention, est-ce que vous avez l'impression que les moyens mis en œuvre pour lutter contre le suicide aujourd'hui au Sénégal sont suffisants, professeur Sylla? Je rappelle aussi que vous êtes partie prenante justement des autorités, hein, puisque vous travaillez à la division santé mentale du ministère de la Santé.
Alors, ces moyens sont loin d'être suffisants, effectivement, parce que déjà même l'un des axes principaux de la prévention qui, à mon avis, est de bien connaître les signes d'appel. Ça, c'est un gros problème, aussi bien au niveau des familles que des praticiens. Par exemple, nous avons mené une enquête. Les signes de la dépression sont assez méconnus encore. Alors, les personnes vont consulter surtout pour les symptômes qui dérangent, tels une agitation, un délire, mais la consultation n'est pas systématique lorsque le sujet est calme, lorsqu'il exprime sa souffrance autrement que par l'agitation. Et donc, nous pensons qu'il y a véritablement des actions à mener dans ce domaine, mais qui demandent aussi des moyens pour sensibiliser le personnel de santé, mais aussi les populations, pour pouvoir détecter ces signes précoces.
Et en ce qui concerne la société civile, professeur Aïda Sylla, dans le secteur associatif, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des initiatives justement dans le domaine de la prévention?
Pas du suicide. Ils sont beaucoup plus orientés vers l'aide aux malades démunis, aux malades dans la rue. Par exemple, nous n'avons pas de centre d'appel pour recueillir les souffrances, sinon les centres d'appel du SAMU, qui sont ouverts à tout le monde, mais pas de ligne, par exemple, spécifiquement dédiée à la souffrance psychique.
Et si vous aviez un message à faire passer hein, à l'occasion de cette journée mondiale de la prévention du suicide, professeur Aïda Sylla, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, notamment en Afrique?
Encore sensibiliser les populations, mais aussi les parties prenantes. Même si nous sommes parties prenantes, nous restons encore militantes pour sensibiliser les autorités par rapport à la dimension de la santé mentale, parce que nous sommes dans un contexte où la priorité est encore accordée à ce qu'on appelait les grandes pandémies, de savoir que c'est une question qui est importante, de pouvoir avoir tous les moyens qu'il faut afin de protéger
les patients.
Les populations.
Merci beaucoup, hein, professeur Aïda Sylla, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie au CHU de Fan à Dakar, également chef de la division santé mentale au ministère sénégalais de la Santé.
RFI à Dakar, 92 FM.
On retrouve nos invités en studio, Alain Mathieu, président de SOS Amitié. On vient de l'entendre, au Sénégal, pas de ligne téléphonique, peu de moyens. On va regarder la situation en France. Est-ce que, d'après vous, il y a suffisamment de moyens consentis au niveau public hein, pour cette prévention du suicide?
Bien évidemment, non. Le constat qu'on peut faire, c'est que il y a environ entre 8 et 9 000 décès par suicide par an en France. Et il y a 3 000 décès par accident de la route. Et quand on voit les moyens qui sont mis ou qui ont été mis récemment pour essayer de diminuer de 10% ces décès par accident de la route, on s'aperçoit qu'on pourrait faire largement autant, sinon plus, pour prévenir le suicide, qui est quelque chose quand même de difficilement acceptable, même si on respecte tout à fait le souci de certaines personnes de mettre fin à leur jour, il y a quand même souvent des causes externes sur lesquels on peut peut-être agir. Donc il n'y a pas assez de moyens, et en particulier les associations qui recueillent les appels téléphoniques n'ont pas assez de bénévoles.
Donc davantage de moyens, une véritable politique de santé publique en matière de prévention, un message à faire passer à l'occasion de cette journée mondiale. On arrive à la conclusion hein, déjà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. On aura encore énormément de choses à dire sur cette question et on le fera bien sûr à l'occasion d'une prochaine émission. Merci à tous les deux, Alain Mathieu, président de SOS Amitié France, et à vous, professeur Frédéric Rouillon, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes et ancien chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et tout de suite, on parle santé et alimentation avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Cette semaine, on va parler de deux céréales originaires d'Afrique et d'Asie, le mil et le sorgho. Alors pour commencer, présentation de ces céréales.
Alors ce sont deux céréales dont le grain est utilisé dans l'alimentation depuis des millénaires et des millénaires, depuis plus de 10 000 ans, et qui sont issus de plantes qu'on appelle des graminées. Donc cette famille est souvent appelée de manière commune les millets, alors qui va du petit mil, du millet des oiseaux, mais aussi le fonio et le sorgho, et le mil un peu plus simple, le petit mil. Et ils sont donc consommés depuis l'Antiquité en Asie, notamment en Chine, au Japon, en Corée, mais aussi de plus en plus en Afrique. Et il faut savoir que ces deux continents représentent quasiment 95% de la production. Et il faut aussi bien savoir que le Sahel, la zone du Sahel, est une zone où il y a une énorme production et consommation, puisque c'est pratiquement 30% de la production et de la consommation de ces céréales.
Alors Stéphane, en termes de santé, est-ce que ces céréales présentent une composition plutôt intéressante?
Alors, c'est très commun, comme beaucoup de céréales, c'est quand même une composition majoritairement faite de glucides complexes, qu'on appelle l'amidon, donc qui est quand même très important, puisque ça va être la base énergétique pour fournir l'énergie journalière à notre corps. Il présente une teneur aussi intéressante en protéines par rapport à d'autres qui sont avec des acides aminés assez différenciés. Maintenant, elles sont aussi assez faibles, comme toutes les céréales, en micronutriments et en lipides et en graisses. Il y a juste deux choses intéressantes qu'on peut noter, qui sont deux variétés de petit mil, qui vont être le millet rouge, qui est plutôt riche en calcium, et le petit mil ou mil perlé, celui qu'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest, qui va être un peu plus riche en fer.
Alors, des céréales qui auraient un bon index glycémique, un intérêt pour les personnes intolérantes au gluten, est-ce que ces bénéfices santé sont réels?
Alors, la première chose, le gluten, oui, tout à fait, parce que c'est le gluten qui crée l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque est pas présente dans ces céréales, donc c'est une vraie réponse pour les gens qui ont besoin de d'autres formes de céréales pour éviter ce problème-là. Maintenant, sur l'index glycémique, faut rappeler rapidement ce que c'est. Donc, c'est l'indice qui va donner la capacité d'un aliment à élever la glycémie après l'avoir mangé. Et on classe en trois catégories les index glycémiques faibles, inférieurs à 55, ceux qui sont élevés de 55 à 70 et ceux qui sont très élevés au-dessus. Et ces céréales-là ont un index glycémique qui est intermédiaire, ce qui va faire qu'elles sont assez intéressantes. À faire attention après à quoi elles sont additionnées en termes de sauce.
Et Stéphane, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs?
Alors, comme toujours, une diversité, c'est-à-dire que ça, il faut pas manger que du mil, que du sorgho, que du riz. Ça permet d'avoir vraiment une diversité à la fois des protéines amenées, des formes d'amidon. Donc ça, c'est très très important. Pour les personnes intolérantes au gluten, comme on l'a dit précédemment, c'est une très très bonne source de céréales autres que le blé ou d'autres céréales. Faut rappeler toujours la quantité aussi de céréales, parce que souvent, dans beaucoup de pays, elles sont mangées en excès maintenant avec des assiettes très très remplies. On est à peu près à une recommandation de 50% de l'apport calorique, soit à peu près 300 grammes par jour aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus faire des assiettes trop abondantes. Et enfin, toujours se rappeler qu'on ne mange jamais la céréale toute seule, qu'elle est accompagnée d'une sauce, et toujours les mêmes conseils, des sauces qui ne doivent pas être trop grasses, trop salées, et qui doivent être là aussi plus riches en légumes et en différents composés. Et la chose intéressante aussi qu'on peut rappeler, c'est comme c'est des céréales qui poussent très bien localement, c'est aussi intéressant parce qu'elles ont moins besoin de produits phytosanitaires, et souvent on a des céréales à la fin qui sont quand même moins contaminées par les produits.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. À très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons aborder la question de l'accessibilité en situation de handicap. Qu'est-ce qui se passe une fois que nous sommes sortis des structures de rééducation, de réadaptation? Vos témoignages, vos questions, le numéro de l'émission 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.